fonction d'aujourd'hui que l'on m'a demandé de faire s'intitule « Femme chrétienne et femme mondaine ». La religion chrétienne comprend du dogme, mais aussi de la morale, et la morale c'est pratique, alors il faut rentrer dans des conditions pratiques. Pour cela, nous nous adorons un petit peu des pères de l'Église, et tout spécialement de Saint Jean Chrysostome. Ça tombe très bien puisque Monseigneur nous en parlait à midi dans cette conférence, et puis également de Tertullien. La femme doit être d'abord considérée dans l'état de justice originelle, tel que Dieu l'avait voulu, c'était Ève, avant le péché originel. La prévarication a commencé par Ève, puis par Adam, mais c'est Adam qui emporte la responsabilité, puisque c'était lui le chef de l'humanité, et non pas Ève. Donc c'est par Adam que se transmet le péché originel. Voilà la femme dans un nouvel état, l'état du péché originel. Mais notre Seigneur nous rachète. Il rachète les hommes, hommes et femmes, il les rachète. C'est la femme chrétienne, dont le modèle est bien sûr Notre-Dame. Il n'est peut-être pas si fréquent de trouver, comme pour les hommes, des femmes archétypes, modèles de l'un ou l'autre état, des femmes parfaitement chrétiennes ou des femmes parfaitement marquées par la corruption du péché originel. Ce qui existe plutôt, c'est un esprit. L'esprit chrétien et l'esprit du péché originel, qui sont deux esprits contraires. Et les femmes, comme les hommes, sont placées entre ces deux esprits, plus ou moins influencées par l'un ou l'autre. L'esprit de Jésus-Christ et l'esprit du péché originel. Le péché originel, quand il est partagé par plusieurs, par tous en fait, la corruption devient nombreuse, et lorsqu'elle imprègne la société, ça devient l'esprit du monde. Il faut bien comprendre que l'esprit du monde n'est autre que l'esprit du péché originel, mais l'esprit du péché originel en tant qu'il imprègne la société. Donc lorsqu'on parle de mondanité, d'esprit mondain, il ne s'agit pas seulement de belles soirées, de la bourgeoisie, avec de la vaisselle Christophe, et puis des conversations futiles. C'est beaucoup plus profond. L'esprit mondain, c'est l'esprit du péché originel. Nous allons passer dans le détail de ce qui est le devoir de la femme, donc l'esprit chrétien, et de ce qu'elle doit éviter, donc de l'esprit mondain. Bon, cette fois-ci ce sera plus structuré, moins proche de la méditation. Nous commencerons par la femme chrétienne en général. Puis, à la fin de ce paragraphe, un petit mot sur deux états particuliers de la femme chrétienne. Puis la femme chrétienne dans le mariage, l'épouse. Femme chrétienne lorsqu'elle est mère, ensuite la femme chrétienne lorsqu'elle est maîtresse de maison, ce qu'elle est presque toujours, qu'elle soit mariée ou non, et enfin divers points comme les relations sociales et d'autres choses. Alors nous commençons par la femme chrétienne. commençons dans ce premier paragraphe par les vertus à pratiquer et les défauts à éviter. Alors je m'inspirerai donc de Saint Jean Chrysostome, de Tertullien, de Fénelon, d'autres auteurs encore. Je vais me protéger derrière eux. Saint Jean Chrysostome. Le rôle de la femme dans les choses de la vie diffère de celui de l'homme. À celle-là, le tissage, le travail de l'intérieur, le soin de la maison, la vie sédentaire, l'éducation des enfants. À l'homme, les tribunaux, les délibérations publiques, l'agora, la guerre, les combats et les camps. S'agit-il des luttes de la piété, la lice et commune, commun et le devoir? Les femmes se disposent au combat aussi bien que les hommes. Elles n'en sont pas dispensées. Donc, appel des femmes comme des hommes au combat de la piété. Ensuite, je continue pour m'attirer la faveur publique. Pour bien vous montrer, dit Saint Jean Chrysostome, que des femmes sont quelquefois d'une énergie supérieure à celle de l'homme, je vais vous en présenter une qui, sans dépouiller la nature humaine, monte jusqu'aux cieux par la puissance de sa sagesse, la mère des Maccabées. Il faut lire dans les Maccabées l'épisode de cette mère des Maccabées, c'est extraordinaire. Mettez en présence le plus intrépide soldat que vous voudrez, la personnification du courage viril, et vous verrez cette femme s'élever au-dessus de lui. Elle était mère veuve, parvenue à la dernière limite de l'âge. Représentez-vous cette mère voyant déchirée par le fer et consumée par le feu le corps de chacun de ses fils. Vous savez que ses 7 fils sont morts sous ses yeux et elle les encourageait dans le martyre. Ses yeux, ses oreilles, son odorat multipliaient ses souffrances, lui faisaient subir à elle 1000 morts. Mais elle était inébranlable comme un rocher. Sur elle venaient se briser et rejaillir en écume les vagues déchaînées. Quoi, voyez cette autre femme, encore une autre, un autre idéal, encore à la fleur de l'âge, avec un corps délicat, passant les nuits sans sommeil et les jours sans nourriture, dominant ses appétits. Donc là, j'ai l'impression qu'il montre un peu la religieuse en fait. Hein. Foulant aux pieds l'amour des richesses, pratiquant la plus rude mortification, crucifiée dans sa chair, marchant sur la terre mais touchant du front la voûte céleste, se riant de la gloire, n'ayant qu'un sac pour parure, etc. Consacrant sa vie à la méditation de la mort, à la veille et à l'austérité. Ne l'élèverez-vous pas plutôt au rang même des hommes pour la faire rentrer dans le cœur des anges? Saint Jean Chrysostome donc explique que la femme peut arriver à des sommets de vertu. Et c'est cela qui est à chercher, les vertus avant tout. Bien sûr, la vertu de la femme est substantiellement la même que celle de l'homme, puisqu'ils ont en commun la nature humaine. Et bien sûr, la femme a certaines vertus à développer davantage, que nous verrons au fur et à mesure. Maintenant, les défauts qu'elle doit éviter et dans lesquels elle tombe facilement. Alors, je vous livre ces défauts en vrac, sur lesquels il peut être bon de faire un examen. Bien sûr, la tentation de la mondanité en général, c'est une tentation qui est favorisée. Il y a une véritable conjuration contre la femme, contre l'homme aussi, mais contre la femme, parce que c'est celle qui prépare les générations futures. Alors on l'exhorte à la mondanité, par les lectures, par le théâtre, par l'appât du métier, etc. Bon. Alors la première tentation, le premier défaut, c'est d'être tenté par la mondanité en général. C'est-à-dire surtout par la diminution de l'esprit de foi. Voilà, première tentation, diminution d'esprit de foi dans le langage, dans les lectures, dans les pensées. Un autre défaut que l'on peut trouver, alors c'est à chacun un peu de se voir soi-même et puis de voir, de faire un examen de conscience, c'est l'égoïsme, qui pourtant n'est pas naturel à la femme. Hein. On ne se sert que soi-même. L'égoïste se ménage. C'est difficile pour une mère de famille d'être égoïste, mais ça peut arriver. On évite un peu trop les imprudences. On prend soin avant tout de sa petite santé. L'égoïsme qui se trouvait beaucoup dans les générations des années 60-70, chez les femmes qui ne voulaient pas avoir beaucoup d'enfants. Certaines raisonnaient par égoïsme. Je ne dis pas que c'est toujours de l'égoïsme, mais là, il y en avait certaines qui raisonnaient par l'égoïsme. On avait des témoignages. Des témoignages. Un enfant, c'est déjà fatigant, alors vous pensez deux. La susceptibilité, un autre défaut. Se tenir toujours en position de défense. L'autre est considéré d'abord comme un agresseur éventuel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire? Parfois c'est maladif. Maladif, je vous assure. Rien, une petite parole dite légèrement, blesse et trouble, provoquant des silences très longs. Et puis des bouderies. Alors on boude pendant deux semaines. Alors la personne s'est dit, ben non, la prochaine fois je ferai attention. Puis quand on s'arrête de bouder, la personne envers qui on boude se met à bouder. Parce qu'elle se dit, c'est pas normal qu'elle ait boudé, on s'en sort plus. La jalousie. Un défaut, il faut dire, qui est quand même assez féminin. Il y a un proverbe qui dit qu'à part Notre-Dame, une seule femme sur terre n'a pas été jalouse. Ève, parce qu'elle était seule. Qui se manifeste par un désir ardent d'être aimé sans partage. Une joie du malheur des autres. Pas que les femmes qui peuvent être, bien sûr, sujettes à cela. Hein. Une secrète souffrance de leur bonheur. Le jaloux, son âme en est rongée. Il y a une très belle lettre dans le Chardonnay, je crois que l'abbé Laguérie, une de ses dernières lettres, sur la jalousie ou l'envie, je ne sais plus, qui est très intéressante, psychologiquement enlevée. L'esprit critique, autre défaut. Au lieu de penser d'abord à se soigner soi-même, à diriger sa vie, on règle celle des autres. Les discussions vont d'abord à égratigner la réputation du prochain. Une aigreur perpétuelle, il faut y veiller. Un défaut aussi qui peut arriver facilement, c'est l'impressionnabilité. Une impressionnabilité trop grande, qui naît souvent d'un naturel, propice. On a les nerfs fragiles et la moindre petite chose provoque des émotions, des réactions prolongées. Bon, il faut tâcher de calmer cela. Un défaut que l'on peut trouver aussi, c'est l'esprit romanesque. C'est entretenu par tout un tas de littérature. Surtout chez les gens de simples conditions, il y a tout un tas de littératures qui sont vraiment néfastes. Hein, bon, qui, grâce à Dieu, ne se propagent pas dans nos milieux, mais ces romans photo, ces romans à épisodes, d'abord du point de vue de l'intelligence, c'est pas brillant. Et puis, on a l'impression qu'on fait rêver les gens de vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais on ne sait pas descendre jusqu'aux réalités. Alors ça finit par donner un caractère, faire attention dans l'éducation même des filles, hein, un caractère irréaliste. On rêve de partir avec le prince dans des espaces, dans des châteaux magnifiques, et puis on ne sait pas coudre un bouton. La rêverie qui est assez proche, hein, la rêverie, bon, c'est pas un défaut bien grave. Là, je décris un peu les défauts et puis les tendances de caractère, tout ça est proche. Hein. La coquetterie, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Hein, le m'as-tu vu, avec l'amour de la dernière mode. Faire attention, bon, c'est moins fort sans doute dans nos milieux, mais faire attention à l'esclavage de la mode. Et ça, c'est fort chez les garçons aussi. Je peux vous en parler. Moi, je suis dans une école. C'est incroyable. Incroyable. Alors, ils se figurent être très intelligents parce qu'ils mettent le même pantalon, la même chemise débraillée que je ne sais pas quelle vedette de rock décadent. Et alors, ils ont l'impression de se démarquer. Mais en fait, on ne se démarque pas du tout, on est esclave. La mode, c'est un phénomène de groupe, d'esclavage. Hein. L'apathie, un autre défaut. On est toujours endormi. On est né ainsi. Insensible à ce qui se passe, on se laisse vivre. Ça, il faut réagir, hein. Que ce soit pour la vie mariée ou la vie religieuse ou même la vie de célibataire, il faut de l'énergie, surtout maintenant pour s'en sortir, hein. Pour être dans la vie religieuse, une jeune fille, une femme religieuse, peut pas se laisser aller. Il faut une grande bonne dose de générosité. La mère de famille, n'en parlons pas. Et puis même ceux qui sont célibataires doivent travailler et travailler dur pour gagner leur vie. Donc il n'y a pas l'apathie, c'est un défaut aussi à combattre. Le manque de franchise, on en a déjà parlé. Trop d'artifices, trop de comédie. Tâcher d'être droit dans sa conduite. Bon, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui sont plus ou moins propices à cela. Et ne pas hésiter à cacher ce qu'on est et ce qu'on pense. Ça vient de loin, ça vient d'Ève. Le bon Dieu s'adresse à Adam. Adam n'est pas brillant non plus. C'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Le bon Dieu va à Ève. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, c'est le serpent. Alors, le serpent, il n'y a personne à qui accuser. Mais ça, c'est la fourberie. Il faut savoir dire non, c'est moi. Hein? Le bavardage aussi. Le bavardage. Saint Jean Chrysostome en parle du bavardage dans l'Église. On en trouve parfois, c'est assez pénible, surtout quand les gens veulent se recueillir. Les fidèles veulent se recueillir, puis derrière il y a deux personnes qui parlent, qui commencent à raconter tout un tas de trucs, et on ne peut plus prier. C'est une honte pour les femmes de parler dans l'église, dit saint Paul. Saint Jean Chrysostome commente. Pourquoi? Parce que la loi les a mises dans un état de subordination. Et voici comment il s'exprime ailleurs, saint Paul. Quand elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent à la maison leur mari. Saint Jean Chrysostome continue. Les femmes, donc, obéissant à ce précepte, se taisaient. Et maintenant, elles se livrent au tumulte le plus bruyant, à des clameurs, à des conversations incessantes. Vous pouvez les voir parler toutes ensemble, et beaucoup plus dans l'église que dans les bains publics. On dirait qu'elles sont venues ici pour avoir une pareille licence, celle de parler, tant elles s'entretiennent toutes des plus futiles objets. Il faut leur imposer un silence qui ne s'applique pas seulement aux choses temporelles, il leur est interdit de parler même de la religion dans l'église. Saint Jean Chrysostome se fonde sur que la femme se taise dans l'église de Saint Paul. Hein. Ce silence est le plus bel ornement. En se tenant dans cette réserve, elles pourront accomplir avec honneur le devoir de la prière. Il ajoute, le sexe est loquace et c'est pour cela qu'il le réprime par tous les moyens. Voilà. C'est ce que dit saint Augustin, je pense, sur la résurrection de notre Seigneur. Pourquoi notre Seigneur s'est montré d'abord à sainte Marie-Madeleine? Parce qu'il savait que la nouvelle de la résurrection se répandrait vite. Mais je lisais tout à l'heure dans saint Jean Chrysostome une explication beaucoup plus bienveillante. Il dit au contraire que c'est un honneur que notre Seigneur a voulu marquer à sainte Marie-Madeleine, à la foi des saintes femmes, que de commencer à se révéler à elle avant les apôtres incrédules. Bien, après les quelques défauts et qualités, passons-en aux moyens de sanctification. J'irai peut-être moins dans le détail parce que, quant aux moyens de sanctification, on en a. C'est toujours dans le premier paragraphe sur la femme chrétienne, hein, donc les moyens de sanctification. Alors, vous en avez déjà entendu parler dans les instructions précédentes. Alors,
Alors, il y a d'abord la piété de la femme. La liturgie dit hein, que la femme est, a une piété, elle est plus pieuse que l'homme. C'est dans l'antienne au Benedictus de l'office de la Sainte Vierge le samedi, je crois. Devoto femineo sexu, le sexe féminin dévot. Ben, il faut profiter de cette disposition que le bon Dieu a mis dans l'âme, et puis beaucoup prier, parce que pour la sanctification personnelle, c'est essentiel. On vous l'a déjà dit, je pense. L'esprit chrétien consiste à prier beaucoup et à prier bien. Et à vrai dire, à prier sans cesse. Et voilà quel est l'esprit de la femme chrétienne. C'est un esprit de prière. La femme chrétienne doit être une femme de prière. La femme chrétienne doit être une femme de prière. Et on voit parfois des personnes qui, à vrai dire, font de toute leur journée une prière. L'esprit mondain est au rebours. La prière coûte à la femme mondaine quand elle prie. Et elle prie par convention. On va à la messe par convention, parce que ça s'est toujours fait. On y fait d'ailleurs davantage attention à tout un tas de futilités plus qu'à la prière elle-même. L'esprit mondain détourne la femme de la prière en famille. Du chapelet, de la prière du matin et du soir. L'esprit mondain pousse la femme au respect humain dans la prière et à la tiédeur. Donc prier est véritablement relève de l'esprit chrétien. La piété. Le sacrifice. Le sacrifice qui est nécessaire de toute façon à tout homme pour la réparation de ses péchés, pour la préservation des péchés futurs, pour le progrès spirituel, pour l'imitation de Jésus-Christ. L'esprit chrétien, et donc l'esprit chrétien chez la femme chrétienne, est un esprit de sacrifice. Et pour que la femme chrétienne soit vraiment chrétienne, il faut qu'elle ait cet esprit-là. Et c'est pas un esprit de carrosse et de... Non, c'est un esprit de sacrifice. Et elle ne pourra pas le donner à ses enfants si elle ne l'a pas elle-même. Et si elle est religieuse, ça lui coûtera de ne pas l'avoir. Il se manifeste dans la simplicité de la vie. Pour celle qui est mariée, il la pousse à se sacrifier pour le mari, pour les enfants. Il la pousse à être tempérante dans le boire et le manger. À sacrifier volontiers des loisirs, même permis, pour le bien matériel de la famille, parfois. Le sacrifice de l'obéissance à son mari. Bon, obéissance qu'il faut bien comprendre, bien sûr, mais je pense que l'abbé Troidec a dû vous en parler, en parlant du mariage. Est-ce que c'est à moi que revient le lourd de tâche ? Bien. Donc il vous en a parlé. On verra, si on a le temps, on en parlera. On est peu court, on a longtemps. L'esprit chrétien amené à son idéal, c'est Marie Grignon de Montfort qui nous dit que c'est le renoncement universel. Lisez ça dans la sagesse. Comment s'appelle ce livre ? La sagesse. Enfin, le livre sur la sagesse éternelle. Un livre extraordinaire hein, qu'il faut lire. Alors, il parle là-dedans de la nécessité de passer par le renoncement universel pour arriver à la possession de Jésus-Christ. Et c'est vrai pour tous les chrétiens et donc pour la femme. Le renoncement universel, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas réserver le sacrifice pour une période de notre vie. Ça reste par exemple simplement pour les repas. C'est à tout moment que nous pouvons faire de notre vie quotidienne un holocauste. Raisonnable, mais un véritable holocauste, offrir des petites choses. L'important, c'est pas la grandeur de la chose tant que le cœur, l'esprit avec lequel on offre. Voilà l'esprit chrétien, l'esprit de sacrifice. L'esprit mondain est au rebours. L'esprit mondain pousse la femme à l'éloignement de tout sacrifice. L'œil regarde ce qu'il veut. J'ai envie de regarder, je regarde. J'ai envie de lire, je lis. L'oreille écoute ce qu'elle veut. Curiosité. La bouche mange et boit ce qu'elle veut. Intempérance. L'imagination rêve à ce qu'elle veut. Les sens font et prennent ce qu'ils veulent. Le cœur aime ce qu'il veut. On fait ce qu'on veut. C'est la liberté du péché originel, la liberté mondaine qui s'oppose à l'esprit chrétien. Alors, les détails, c'est à chacun de voir dans sa vie. Est-ce que nous avons suffisamment l'esprit chrétien ou est-ce que l'esprit mondain, dans le manque de sacrifice, n'est pas rentré chez nous? Est-ce que nous aimons à offrir des petits sacrifices à table, par exemple, ou est-ce que la moindre petite privation, ne pas rajouter de sel, ne pas reprendre d'un plat, nous coûte énormément? Est-ce que dès qu'il fait froid, on se couvre, on s'enferme? Est-ce que lorsqu'on a envie de plusieurs choses, qu'on a plusieurs choses à faire, on pense de temps en temps à faire celle qui nous plaît le moins d'abord? C'est un petit sacrifice qui ne coûte rien à la santé, ça. Commencer par les choses les plus difficiles. L'affaiblissement de l'esprit de sacrifice est le début de la pente vers le péché mortel. C'est notre Seigneur qui l'assure. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Acceptez le climat, la maladie, les croix. Hein. Les croix peuvent venir de multiples circonstances. Chacun a ses croix. Dans tous les états, il y a des croix. La religieuse a des croix. La mère de famille a des croix. Ô combien ? La célibataire a des croix. Tout le monde a des croix. Hein. Et l'esprit chrétien consiste à essayer, ça n'enlève pas l'épreuve, ça n'enlève pas la souffrance, mais à essayer de les porter avec courage. Repassons à Saint Jean Chrysostome pour se détendre un peu. Il parle de la boisson. Non, je prends la boisson parce que j'ai trouvé ça, j'aurais pu prendre autre chose, c'est au hasard. Rien de plus honteux qu'une femme ivre. L'harmonie de ses traits est alors altérée, ses yeux ont perdu leur éclat et leur douceur. Je continue. Qu'elle est repoussante encore une fois quand elle exhale l'odeur du vin avec celle des viandes en décomposition. Pliant sous le fardeau, incapable de se tenir debout, d'une rougeur excessive, chancelant en quelque sorte dans les ténèbres. Par contraste, elle n'est pas la femme qui s'abstient de ce qui flatte l'essence, le sacrifice. Elle commande le respect, elle porte l'empreinte de la sagesse, et la tempérance rehausse sa beauté, car l'heureuse disposition de l'âme se reflète toujours sur le corps. Ensuite, parlerons-nous des hommes maintenant ? Bon, là je passe. C'est pas l'objet de cette instruction. Troisième moyen de sanctification, la perfection dans les actions ordinaires. Un grand moyen de sanctification. D'après l'abbé de Tancret, c'est le principal moyen de sanctification. Le plus grand levier de sanctification des âmes. Il va jusqu'à dire que ça n'est pas la l'oraison. Ce n'est pas le sacrifice, c'est la sanctification des actions ordinaires. Bon, ce n'est pas partagé par tous les auteurs. Les carmélites ne diraient pas ça, les capucins non plus. Mais c'est intéressant, ça en montre au moins l'importance de faire parfaitement tout ce qu'on fait, comme faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parfaitement, pas seulement avec un esprit de méticuleux, hein, mais parfaitement, c'est-à-dire avec l'intention d'abord, l'intention d'offrir cela au bon Dieu, l'intention de faire sa volonté. L'esprit chrétien aime cette sanctification des actions ordinaires. Il fait tout par esprit de foi. L'esprit chrétien affectionne l'humble devoir quotidien, que ce soit les études ou la famille, ou pour certaines un métier obligé. L'esprit mondain, au contraire, est un esprit très naturel qui ne s'attache pas à l'ordinaire. Il pousse au grandiose, aux grandeurs, aux ambitions, à tout ce qui paraît. Pour terminer sur ce paragraphe sur la femme chrétienne, assez rapidement, Saint Jean Chrysostome nous donne quelques conseils spécifiques pour deux états. Le premier état, c'est donc l'état des célibataires. Bon, ça ne diffère pas spécifiquement de ce que j'ai dit jusqu'ici, donc on n'a pas trop le temps. Et puis le deuxième état, il y a un passage intéressant, c'est pour les femmes âgées. Il donne quelques conseils qui sont utiles, surtout développant l'idée suivante, comme pour les hommes, les femmes âgées doivent être l'exemple des plus jeunes, hein, cette vertu de l'exemple. Elle recommande cette parole de saint Paul, que les vieillards soient sobres et vigilants. Il y a sans doute parmi les vieillards des frénétiques et des insensés, les uns par l'effet de l'ivresse, les autres par celui du chagrin. La vieillesse elle-même porte à la misanthropie. Soyez charitables et patients, pas de vertu plus nécessaire aux vieillards. Bon, c'est traduit du grec, donc je pense que par le mot vieillard, il faut entendre le troisième âge, pas seulement le vieillard au sens propre. Hein. Exhortez les jeunes gens à pratiquer la modération, vertu des vieillards. Exhortez les jeunes gens à pratiquer la modération, qu'elles enseignent la sagesse aux jeunes. En toute chose, posez-vous comme un modèle de vertu, y reprend saint Paul. Que les femmes âgées instruisent les jeunes en les exhortant à se tenir dans la modération. Que leur vie soit pour tous le guide et le type de la vertu. Un miroir placé devant les yeux de tout le monde. Une image supérieure et comme l'idéal même du bien. Extrêmement accessible cependant à quiconque veut en reproduire les traits. Hélas, nous vivons dans une société, je crois on peut dire, qui sépare un peu les générations, hein, en enfermant par exemple les personnes âgées dans des maisons de retraite, ou bon, pour mille et une raisons, c'est parfois justifié, il n'y a pas moyen de faire autrement, bon, peu importe le détail. Mais il reste cet esprit de séparation des générations, et il y a moins qu'avant, je pense qu'on peut dire qu'il y a moins qu'avant, l'exemple que pouvaient donner les anciens aux jeunes. D'abord parce que souvent les anciens ne donnent pas l'exemple de la vertu, hein. Combien de vieilles personnes s'éloignent de la religion à l'heure actuelle, par exemple, hein. Et puis parce qu'en plus il y a une séparation. Et dans certaines sociétés traditionnelles, plus traditionnelles dans le tiers-monde, par exemple, il n'y a pas ça. Les vieilles personnes sont proches encore des plus jeunes générations, et alors ça a deux conséquences. D'abord un plus grand respect, hein, moi je connais bien un pays d'Afrique, et j'ai passé de nombreuses années là-bas, et je peux vous dire qu'il y a un beaucoup bien plus grand respect de l'ancien là-bas. Hein, il y a un grand esprit de soumission, de piété envers les anciens, et d'écoute, et d'exemple, c'est-à-dire on regarde ce qu'ils font, l'ancien a parlé, on fait ce qu'il dit, c'est le sage. Et alors les anciens font attention à leur attitude, à ce que les jeunes prennent exemple sur eux. Et dans les Maccabées d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a, je crois que c'est le vieillard Éléazar, auquel les impies proposent, demandent de manger des viandes qui ne sont pas permises aux juifs. et Eleazar refuse. Et alors, ils lui font la proposition suivante. On va faire en sorte que vous n'en mangiez pas, mais que tous les jeunes du village voient que vous en avez mangé. Vous n'en mangerez pas, donc vous ne pécherez pas contre la loi, et tous les autres penseront que vous en avez mangé, et donc nous pourrons vous laisser vivant. Et alors, au hasard d'avoir une réponse magnifique, il faut relire les Maccabées, hein, mais non, parce que les jeunes ont les yeux posés sur moi, et qu'allez-vous faire du scandale ? Alors il va refuser de manger ses viandes et on va lui donner la mort. Voyez. Il faut relire ces Maccabées. C'est extraordinaire. Ce sont des pages, les dernières pages de l'Ancien Testament, qui sont très instructives, parce que nous montrant des vertus spécifiquement importantes pour l'époque actuelle. C'est une époque d'impiété, l'époque des Maccabées, et aujourd'hui on vit une époque d'impiété. Donc il y a tout un tas de vertus, comme la vertu de force, avec du courage, la foi, l'antilibéralisme, hein, qui sont bien manifestes dans les Maccabées, hein, qui va jusqu'au martyr. Passons à l'épouse. L'épouse, donc la femme dans un état particulier, est l'état de mariage. Alors d'abord, ses relations par rapport au mari. Donc, c'est le deuxième paragraphe. Hein. D'abord, ses relations par rapport au mari. Bon, j'irai vite parce que je n'ai pas prévu d'en parler dans le détail. L'esprit chrétien, c'est un esprit qui est décrit finalement par les évangiles, et même par l'Ancien Testament, et puis par saint Paul. L'esprit chrétien, c'est l'esprit... d'obéissance, mais pas d'obéissance comme une servante obéit à son maître. La femme n'est pas une servante, la femme chrétienne n'est pas une servante. Il y a une obéissance, mais il y a un compagnonnage, comme on dit. Elle est compagne. Aide. Aiutorium simile sibi, dans la Genèse. Aide semblable à l'homme. Donc, une obéissance au sens propre, c'est-à-dire que, comme dans toute décision, il faut qu'il y en ait un qui décide, et ça doit être l'homme, mais compagnonnage, donc sans tyrannie. Hein, sans tyrannie, ça veut dire concrètement que l'homme doit parler avec sa femme, et la femme doit se faire entendre, paisiblement. Demander conseil. L'homme doit demander conseil. En général, normalement, il n'y a pas de... Il ne doit pas y avoir de conflit. On doit se mettre d'accord. Bon, ça, c'est la théorie. Enfin, bon. Enfin, c'est tout un chapitre qu'il faudrait développer, qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui doit donner à la femme chrétienne un esprit qui se place entre la servilité et l'esprit moderne de revendication. L'équilibre. C'est large. Elle doit plaire à son mari. Elle doit plaire à son mari. Chercher à plaire à son mari. L'esprit mondain, c'est un esprit de revendication, le féminisme. C'est la lutte des classes mise dans le mariage. Et finalement, la femme renonçant à sa condition de femme cherche à imiter l'homme pour se placer égale à lui. C'est l'esprit mondain. Qu'il ne faut pas cultiver, qu'il faut éviter. Dans les vêtements, ça se manifeste par le pantalon. On rentre dans les détails, mais le pantalon n'a pas de place chez la femme chrétienne. Dans certaines coiffures, trop proches de celles de l'homme, dans certaines attitudes, manières de faire, je pense à la cigarette, qui d'ailleurs n'est pas bonne pour l'homme non plus. Dans les loisirs même, on voit des femmes pratiquer des sports brutaux, des sports violents. C'est absurde. Dans la tentative de passer pour un esprit fort, autoritaire, dans les essais de prendre les métiers que prennent les hommes, tous les métiers, systématiquement, pour bien montrer qu'on peut être capable de faire pareil. Alors on voit des femmes à Saint-Cyr, elles vont jusqu'à imiter la vulgarité de l'homme. Saint Jean Chrysostome en parle avec son esprit pratique, très très pratique, coutumier. Bien loin de s'élever lorsque la femme tâche d'égaler le rang de l'homme, bien loin de s'élever, elle tombe de son propre rang. Ne pas se renfermer dans les limites de sa nature et dans les lois que Dieu nous a posées, transgresser les unes et les autres, ce n'est pas monter, c'est descendre. Quand on désire le bien d'autrui, être égal à l'homme, quand on le dérobe, on n'acquiert rien de plus, on perd même ce qu'on avait déjà. La femme n'acquiert pas davantage la dignité de l'homme, elle se dépouille plutôt de sa distinction comme femme. Il faudrait afficher ça dans toutes les revues féministes. Et oui, si la femme cherche tant à s'égaler à l'homme, c'est parce qu'en quelque sorte, elle n'est pas contente de sa condition de femme. Et donc, au lieu de rehausser sa condition de femme, elle la critique. Donc je pense que de toute façon, vous êtes suffisamment convaincus, je n'insiste pas. Ensuite, un chapitre délicat s'il en est, le chapitre des vêtements, des ornements, des soins du corps, la toilette. Alors, nous étendrons un petit peu là-dessus pour le simple motif suivant, c'est qu'il y a des passages sympathiques chez les pères de l'Église, donc il faut un peu de détente dans une retraite. Un petit peu de détente dans une retraite. Alors, l'homme comme la femme ont la mission d'aimer le bon Dieu, d'aimer le prochain, de se donner. Mais il y a aussi des désirs moins nobles comme celui du pouvoir. Et chez l'homme, le désir du pouvoir se satisfait dans l'autorité, dans l'ambition, dans la gloire. Et la femme, naturellement, n'est pas faite pour cela, alors le pouvoir, elle aura tendance à l'exercer par la séduction, chercher à plaire, bon, à plaire ou à séduire, comme on voudra. Plaire n'est pas mauvais. Plaire n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. Je rentrerai ensuite dans des détails plus pratiques moraux, des repères moraux plus nets. L'excès actuel, c'est bien sûr la variété continuelle de modes qui s'oppose à une difficile simplicité. Le grand problème qui est au fond de la tentation chez la femme de donner trop d'importance aux soins du corps, aux vêtements et au maquillage, le fond du problème, c'est d'attacher finalement trop d'importance au paraître et pas assez à l'être. Voilà. Ce qui est au rebours de l'esprit chrétien. L'esprit chrétien, c'est d'abord un esprit de l'être. Le paraître n'est que la manifestation de l'être. Tandis que l'esprit mondain, c'est d'abord un esprit de paraître. Et l'être, finalement, est sacrifié. Là, je vous lis Saint Jean Chrysostome. C'est un chapitre que Saint Jean Chrysostome développe beaucoup. J'ai trouvé une vingtaine de références sur ce chapitre, donc ça veut dire qu'il prêchait souvent, je pense parce qu'il y avait un besoin. Alors c'est difficile de savoir, il faudrait faire des études historiques, de savoir quelles étaient les habitudes à l'époque, il faudrait se renseigner, sans doute qu'il y avait vraiment beaucoup d'excès. Prétendez-vous orner votre visage, ce n'est pas avec des pierres précieuses que vous y réussirez, mais bien avec la pudeur et la modestie. C'est le meilleur moyen de captiver le regard de l'homme. Ces ornements mondains font naître les soupçons, la jalousie, les inimitiés, les disputes et les combats. La beauté qui provient de l'aumône et de la chasteté rend impossible tout soupçon injurieux, et c'est le plus fort des liens pour attacher le cœur d'un époux. Ce n'est pas à la nature que le visage doit sa plus grande beauté. C'est à l'affection de celui qui le considère. Quelque belle que soit une femme, si l'homme n'a pour elle que la répulsion et lui paraîtra d'une laideur extrême, une autre sera loin d'être belle, mais elle plaît à son mari, celui-ci la jugera la plus belle de toutes les femmes. Bon. Ainsi donc, perfectionnez la beauté de votre visage par la pudeur, la décence, la générosité envers les pauvres, l'amour du prochain. Voilà les couleurs dont se forme l'image de la vertu. Par là vous attirerez les anges, non les hommes. Par là vous mériterez les éloges de Dieu même. La vertu illumine le visage de la femme. Il ajoute, je ne vous donne pas les références, si jamais vous les désirez, je peux vous les donner en privé, hein, ça va plus vite. Voulez-vous être paré? Donc il reprend, revêtez-vous d'aumône, etc. Ces vertus rendent plus belle la femme qui a la beauté. Elles donnent même la beauté à celle qui ne l'a pas. Quand une personne unit la grâce à la bienveillance, elle gagne notre sympathie. Mais fût-elle belle, si elle est pervertie, nous ne saurions l'appeler belle. La femme de Putiphar avait sa parure, et Joseph avait la sienne. Qui avait le plus de beauté? La femme de Putiphar, vous savez, dans la Genèse, a essayé de séduire Joseph, hein, qui n'a pas cédé à ses propositions infâmes. Et d'un côté, il y avait cette femme de Putiphar, la femme de, je crois, soit le pharaon, soit l'intendant du pharaon, qui était donc sans doute ornée de tout ce qu'on voudra. Et puis Joseph, qui était un homme simple. Hein, mais où était la beauté? Elle était d'abord intérieure. Hein. Beaucoup de personnes aujourd'hui se maquillent, sortent, s'habillent d'habits splendides, de bijoux splendides. Mais le prêtre aimerait bien savoir quel est l'état de leur âme pour pouvoir leur faire du bien. Hein, parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui la splendeur des ornements, des bijoux, des vêtements reflète toujours la beauté de l'intérieur. On peut pas dire ça.
Plaire est bien, mais depuis le péché originel, le corps est pour l'homme une source de péché. Pour l'homme, au sens générique du terme, hein, pour l'être humain. L'esprit chrétien consiste, par conséquent, à se protéger et à protéger le prochain du péché. Donc l'esprit chrétien ne dit pas que plaire est mal. Il dit que plaire de manière à mettre la vertu de l'autre en danger est mal. Mais l'esprit mondain, qui, comme nous l'avions dit tout au début, naît du péché originel, ne reconnaît pas le péché originel. Et par conséquent, quel mal y a-t-il à porter une robe de ce genre qui vous paraît trop légère, puisque, après tout, c'est le bon Dieu qui a fait ces robes, c'est le bon Dieu qui a fait la nature humaine, etc. Mais attendez, il y a le péché originel. L'esprit mondain est une négation du péché originel. On fait comme si l'homme n'était pas affecté du péché originel. Mais si! Bien sûr, il y a le baptême, mais le baptême, déjà tous les gens ne sont pas baptisés, et puis de toute façon, le baptême enlève le péché originel, mais demeure les conséquences du péché originel. Il me semble que vous avez vu ça avec l'abbé Troidec. Hein, les quatre blessures, elles sont toujours là. Il n'est pas permis de... Il est permis de plaire, il n'est pas permis d'allumer de mauvaises passions. Hein, comme dit un proverbe, c'est l'amour de ses parures qui, chez la femme, rend la vieillesse ridicule et la jeunesse coupable. Alors il faut s'examiner. Quelle importance la toilette a dans ma vie? Première, bon ben là il faut corriger ça. Quelle importance la toilette a dans ma vie? Quelle importance relative je donne à ma toilette et à mon âme? Bon examen. Quel temps je donne, quel attachement je donne d'un côté aux soins de mon corps, à ma parure, etc., et puis aux soins de mon âme. Regardons. J'ai perdu mes produits toilette, j'ai perdu ma Bible. Qu'est-ce qui me fait le plus de chagrin? Autre méditation salutaire, pensons à ce que devient notre corps à la mort. Méditation salutaire. Quand ils avaient saints, ils avaient toujours des squelettes devant eux. C'est une habitude en particulier, je crois, franciscaine, hein, puis même de grands saints, et je mettais des squelettes devant eux pour penser à la mort. Bon, je vous dis pas de faire pareil, mais il faut penser de temps en temps, quand on se regarde dans la glace, on est en train de se mettre des crèmes, et finalement, un jour, tout ça... paraître et être. Allons plus loin. Je cherche à plaire. C'est pas défendu, mais je cherche à plaire à mon mari. selon Tertullien. Alors, Tertullien, il faut dire que, bon, il y a des choses chez Tertullien qu'il y a à prendre et à laisser quand même. Hein. C'est un père de l'Église, mais parfois, il y a eu quelques... Mais enfin, bon, là, ce qui est un peu intéressant, c'est sa plume. Il a une plume extraordinaire, jolie. Elle pêche contre Dieu, celle qui accable leur peau de drogue, macule leurs joues de rouge, étire leurs yeux avec du noir. Apparemment, l'œuvre pétrie par Dieu leur déplaît. Elle blâme et critique en elle l'artisan de toutes choses. C'est critiquer en effet que de corriger, d'ajouter, surtout quand les ajouts sont pris à l'artisan adverse, c'est-à-dire au diable. Il ne va pas par le dos de la cuillère. J'en vois également qui se teignent les cheveux au safran. Elles rougissent même de leur nation, regrettant qu'on ne les ait pas fait naître en Germanie ou en Gaule. Aussi changent-elles de patrie par leurs cheveux. Mauvais et très mauvais présage pour elles qu'une tête couleur de flamme. De plus, elles croient embellir ce qu'elles dégradent. C'est un fait que la puissance corrosive des drogues nuit à la chevelure. Et que d'autre part, l'application répétée de n'importe quel liquide est la ruine assurée du cerveau. Mais quand le Seigneur dit « Qui d'entre vous peut rendre noir ses cheveux blancs ou blancs ses cheveux noirs ?» Les voici qui s'y opposent. « Tenez, disent-elles, au lieu de blancs ou noirs, nous les rendrons blancs, pour qu'ils aient plus de charme. » Encore qu'on voit aussi s'efforcer de passer du blanc au noir celles qui ont regret d'avoir vécu jusqu'à la vieillesse. Ô témérité ! En quoi tout ce mal que vous vous donnez pour orner votre tête concourt-il à votre salut ? Ne pouvez-vous laisser en paix vos cheveux, qu'on voit tantôt attachés, tantôt dénoués, tantôt relevés, tantôt tombants ? Les unes ont la passion de les retenir en boucle, les autres de les laisser glisser, libres et flottants, avec une fausse simplicité. Vous y attachez de surcroît ? Vous y attachez de surcroît je ne sais quelle masse énorme de cheveux postiches, cousus et entrelacés, soit pour former un bonnet, qui a l'air d'un fourreau pour la tête avec un couvercle au sommet du crâne, soit pour s'étager par derrière sur la nuque. Façon admirable de ne pas se dresser contre la loi divine. Il a été dit que personne ne pouvait ajouter à sa taille. Vous, vous ajoutez à votre poids, en échafaudant sur votre nuque des espèces de brioches, ou plutôt des poches de... ou plutôt des bosses de bouclier. Allez, le dernier passage de Tertullien. C'est tiré de la toilette des femmes. Elle fait tout un livre là-dessus. Plus spirituel. Il est temps de vous montrer rehaussé des onguents et ornements des prophètes et des apôtres. Prenez à la simplicité votre blanc, à la pudeur votre rouge. Peignez vos yeux de retenue. Et votre bouche de silence. Passez dans vos oreilles la parole de Dieu. Fixez à votre nuque le joug du Christ. Soumettez-vous à vos maris et vous serez assez parés. Occupez vos mains au travail de la laine. Gardez les pieds à la maison et vous paierez plus que dans l'or. Ayez pour vêtements la soie de l'honnêteté, le lin de la pureté, le pourpre de la pudeur. Ainsi fardé, c'est Dieu que vous aurez pour amant. Très beau. Si on veut résumer pour donner quelque chose de plus précis et concret, en matière de soins du corps, d'ornement, de vêtements, il s'agit de la vertu de tempérance, donc une des quatre vertus morales. Or, la vertu de tempérance, comme toute vertu morale, a un juste milieu. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Il y a un juste milieu dans les soins du corps, dans les vêtements, dans les ornements. Les excès ont été suffisamment décrits. À l'heure actuelle, on voit parfois des armoires de toilette dans les salles de bain. Alors, il y a l'armoire de toilette pour monsieur et les enfants et l'armoire de toilette pour madame. Et alors, quand on part en voyage, c'est une valise qu'on prend. On se demande si elle n'est pas actionnaire chez Nivea. Bon, les excès ne sont pas difficiles à voir. Hein. C'est trop de dépenses, trop de temps, trop d'affection. Trop de cœur donné à ça. Le défaut, ce serait de condamner toute recherche. Et sans doute, Tertullien nous fait bien rire, mais tombe dans ce défaut. Attention. Il est permis de décorer les sapins de Noël. Il est permis de décorer les sapins de Noël. Pardonnez-moi l'expression. Il faut peut-être arrêter l'enregistrement. Instruction à part, mais bon. La place de la mère dans l'éducation est fondamentale, parce que c'est elle qui est auprès de ses enfants quand ils viennent de naître. Dans les premières années qui sont les plus importantes, c'est elle qui est plus éducatrice que le père. Je crois qu'on peut le dire. Et c'est dès le départ qu'il faut éduquer l'enfant aux vertus naturelles et surtout chrétiennes, à la foi. Dès le début, même dans le sein de sa mère, l'enfant commence d'être éduqué. On conseille aux mères de famille de prier, d'aller à la messe, de communier quand elles sont enceintes. Dans le sein de sa mère, l'enfant commence d'être éduqué. Il y a des grâces qui sont méritées. Et puis une fois qu'il est né, il faut éveiller l'âme tout doucement à la foi, à la prière, à la vertu, à l'obéissance. Il y a une confiance illimitée de l'enfant, du petit enfant envers sa mère. Une confiance illimitée, comme envers son père, mais illimitée. Donc tout ce que donne sa mère, c'est dans du buvard qu'elle le donne. L'enfant s'en imprègne comme un buvard s'imprègne de l'encre. C'est du buvard. Il prend tout. Il faut beaucoup soigner cette éducation et puis lui donner cette atmosphère surnaturelle qu'il gardera toute sa vie. Commencer à l'instruire des fondements de la foi. Éveiller sa conscience par l'éducation, par la discipline. Bien sûr, il faut condescendre aux faiblesses, mais il faut aussi édifier l'enfant, le protéger. Et rien n'est plus beau que de donner son enfant au bon Dieu, ou ses enfants. C'est parfois un sacrifice très douloureux. Il y a la peine, mais c'est une peine qui porte des fruits surnaturels immenses. Évitez donc l'esprit mondain par opposition. L'esprit mondain qui s'attache trop à l'éducation purement naturelle. Il faut faire de mon enfant un honnête homme. Donc je verrai à ce qu'il soit fort aux exercices physiques, bien poli, bien éduqué, au plan naturel pur, réussite professionnelle brillante, un bon mariage, etc. Mais où est le bon Dieu là-dedans? Qu'est-ce qui est le principal? C'est comme dans nos écoles. Qu'est-ce qui est le principal? C'est pas l'instruction. C'est secondaire l'instruction, même dans nos écoles. Ce qui est primaire, c'est l'éducation des enfants, l'éducation chrétienne des enfants, l'éloignement de l'esprit du monde. Et concrètement, ça veut dire quoi dans les familles? Il y a trois grands ennemis, il me semble, enfin, ma petite expérience dans les écoles, toute petite, trois grands ennemis pour l'enfant. Le rock, la musique moderne. Dans les familles chrétiennes, traditionnalistes, on écoute la musique moderne, mesdames. C'est pas normal. Pas normal. Et on l'écoute en famille parfois. C'est pas normal. Tout ce que le prêtre apporte, la famille le retire en écoutant ces musiques. Dans toutes ces musiques, quand je dis rock, c'est rap, techno, tout ce que vous voulez, toutes ces musiques modernes. Faites attention même aux variétés. Ah, mon fils n'écoute pas du rock, mais il écoute du Sardou, du Brel, du Céline Dion, tout ce qu'on voudra. Mais vous savez ce qu'il y a dans ces chansons? Vous savez quelles sont les paroles? Qui comprend cette fois-ci parce que c'est en français? Ah, c'est que Michel Sardou, alors c'est pas méchant. Le rock. Et il faut faire attention dans sa chambre aussi. Les enfants qui cachent des cassettes de rock dans leur chambre, ou qui en empruntent par leurs amis, il faut protéger. Il ne faut pas protéger comme on protège dans un cocon. Il faut que ça soit une protection qui soit éducatrice. L'enfant doit comprendre pourquoi c'est mauvais pour lui. Et ça doit petit à petit, au fur et à mesure de l'âge, venir de lui. Tu comprends pourquoi ça va pas? Ah oui, je comprends. Tiens, qu'est-ce que tu as vu ce disque-là? Qu'est-ce que tu en penses? On dit à l'enfant, ah ben c'est pas bon du tout. Voilà, tout doucement, on l'éduque. Mais il faut l'éduquer à repousser. C'est une catastrophe. Même dans nos enfants traditionnalistes, je ne sais pas quel pourcentage, le nombre d'enfants qui écoutent ces musiques rock dans nos écoles. Et c'est pas chez nous qu'ils les prennent, je vous assure. Le deuxième, c'est la télévision. satanée télévision. Je vais pas me faire des amis, mais tant pis. La télévision, c'est vraiment Satan à la maison. J'exagère pas. Tant pis si j'exagère. C'est... Si on vous disait, je vais vous proposer de faire entrer chez vous un franc-maçon, ou un communiste, ou un homme pervers, vous ne laisseriez pas entrer chez vous. Et vous laissez rentrer chez vous la télé. Mais c'est pire. Que d'enfants nous disent, je ne parle pas de la confession, que d'enfants nous disent, j'écoutais la télévision sans que mes parents le sachent. La télévision, c'est l'esprit mondain qui rentre dans la maison. Alors, si vous voulez garder la télévision, d'accord, mais alors, ne confiez pas les enfants aux écoles. Je ne vais pas prendre la place de qui j'ai pas la place, mais ça donne à l'enfant l'esprit sensuel, l'esprit de curiosité. Il s'occupe des choses du monde adulte, qu'il ne regarde pas. Il apprend à avoir des jugements sur tout, sur la politique, sur l'actualité, sur le sport. Il regarde les publicités, il entend des musiques, il voit des clips vidéo infâmes. Hein. Il regarde des films, soi-disant, c'est un gentil western, et en fait, de temps en temps, il y a une scène qui n'est pas propre qui passe. Il apprend à aimer la violence. Il voit des gars entourés d'un scaphandre avec des revolvers ou des mitraillettes qui font 3 mètres de long. Il voit du sang partout. Et après, on veut lui donner l'esprit chrétien. Je me rappelle, il y avait une petite bande dessinée au MJCF de 4 images sur une mère et son enfant, une mère qui couche son enfant. C'est très joli, c'est très bien fait. Elle se rend compte en couchant son enfant, en lui racontant une histoire, des contes comme on a raconté jadis, que son enfant, il est loin de tout ça. Il est dans le monde de la télévision. Alors elle décide finalement de casser la télévision. La télévision, c'est un instrument de perversion des enfants et des familles, de destruction de la famille. Alors est-ce qu'on pourrait faire une télévision chrétienne dans un monde futur ou après la réincarnation, si vous voulez? Le troisième cheval de Troie, c'est les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Ah, mais il faut que mon enfant fasse de l'apostolat. Non. Si votre enfant doit faire de l'apostolat, c'est par la prière et pas par le sacrifice. L'adulte fait de l'apostolat par la parole. Mais l'enfant, s'il fait de l'apostolat par la parole, c'est exceptionnel. L'enfant, il a besoin d'être protégé. Prenons une comparaison. Une poule n'envoie pas ses poussins de n'importe où. Elle les protège. Un oiseau, les enfants restent au nid. Elle n'envoie pas ses enfants, ses petits oisillons n'importe où. Ils restent au nid, elle les nourrit. Puis quand ils sont suffisamment forts, alors là, ils prennent de l'élan. Puis ils vont faire de l'apostolat. Enfin. Eh bien, les enfants, c'est pareil. Quand ils sont petits, ils sont à l'âge où on reçoit. On protège de l'esprit du monde et on reçoit l'esprit chrétien. Donc ça, on les forme, on les forge. Le bon Dieu les forme et vous avec lui. Quand il est formé, quand il atteint la fin de l'adolescence, l'âge adulte, alors là, oui. Progressivement, tout progressivement, pas à pas, on a préparé l'enfant et il devient prêt, petit à petit, à se prendre en charge tout seul, à assumer sa liberté chrétienne. Et il peut être apostolat, pas seulement par la prière et le sacrifice, mais aussi par la parole. Et aller dans des milieux de plus en plus difficiles, et pas avant. Et donc les amis, soi-disant les amis qui ne sont pas catholiques, etc., etc., je ne dis pas qu'il faut les exclure absolument. Soyons pas aussi sévères pour la télévision ou pour le rock. Il ne faut pas les exclure absolument. Il ne faut pas donner aux enfants un esprit sectaire. Mais il faut être très vigilant. Et si certaines familles sont suffisamment vigilantes, d'autres ne le sont pas. On ne s'en soucie pas. Oh, le petit voisin, il est gentil, il a fait pas de mal à personne, etc. Vous ne savez pas ce qu'il raconte à votre gamin quand ils sont tout seuls. Vous ne savez pas ce qu'ils se disent. Vous ne savez pas quelles histoires ils lui racontent. L'esprit mondain qui redoute la vocation. L'esprit mondain qui pose, en général, à une trop grande faiblesse. Bon, l'éducation, comme dans tout, il doit y avoir un équilibre dans toutes les vertus. Il doit y avoir un équilibre. Mais souvent, l'équilibre mondain, c'est un équilibre de trop de faiblesse, pas assez de sévérité. À mon enfant à 18 ans, on l'a invité à une boum, c'est des tradis qui ont fait cette boum, alors j'envoie mon enfant à cette boum. Ma fille à 18 ans, il y a une amie à elle qui fait partie d'un rallye, elle invite ma fille, donc je laisse ma fille aller. Personnellement, je ne suis pas d'accord.
pour élever les enfants dans une atmosphère chrétienne, et dans l'esprit chrétien, il y a une certaine sévérité de l'éducation. En Afrique, toujours pareil, en Afrique, dans certains pays, sur ce plan, ils ont des idées bien plus en place que nous. Bon, quand les pères éduquent leurs enfants, quand ils les éduquent, parce que parfois ils ont 4 ou 5 femmes, et ça fait beaucoup d'enfants, hein, et d'ailleurs, mes enfants ont parfois le même prénom, alors c'est pas facile de les éduquer, hein, quand ils tous s'appellent Mamadou, pas facile de les éduquer, mais quand ils s'en occupent, en général, sur ce plan-là, il y a moins de laisser-aller que chez nous. Mais il faut que la sévérité soit mesurée, bien sûr. Il faut qu'elle soit trempée d'amour. L'enfant qui est éduqué dans une atmosphère de sévérité, de confiance et d'amour, celui-là grandit bien. Sévérité parce qu'il sent que l'autorité est là, qu'elle veille. Mais amour, confiance, il parle facilement, ses parents lui parlent facilement, il peut leur dire tout ce qu'il veut, il n'a pas peur, tout passe, et il voit que c'est pour son bien qu'on est exigeant envers lui. Et on l'aime et on s'occupe de lui. Et le père va s'amuser avec l'enfant, va jouer avec lui, s'occupe de son enfant. La mère aussi, on s'occupe de ses devoirs, on s'occupe de lui. On ne le coconne pas trop non plus, hein. Attention, il y a aussi cet excès-là. L'éducation, c'est terrible, on pourrait y parler pendant des heures. Et il y a cet excès-là, je coconne mon enfant. Oh, attention, il fait un degré de trop dehors, tu vas chauffer. Oh, attention, serre pas la main de ce garçon, tu risques d'attraper, de devenir libéral. Enfin, ouais. Là, il y a du bon sens à avoir. Hein. Équilibre, toujours, l'équilibre. Bon. On ne peut pas tout dire dans l'instruction, hein, donc... On met en avant certains côtés, mais on ne peut pas parler de tout. Si on voulait parler de tout, ça, évidemment, on devrait parler de tous les équilibres. Bon. Dernier paragraphe, la maîtresse de maison. La maîtresse de maison, qu'elle soit célibataire ou mère de famille, doit tenir sa maison. La maison, en particulier l'économie. Non, mais ça dépend des foyers. Parfois, c'est partagé. Il y a le père qui s'en occupe tout seul, ou alors la mère toute seule, ou les deux ensemble. Bon. Mais il faut qu'il y ait une gestion. Bon. Il faut que la maison soit tenue en ordre et proprement. Ça fait partie du plan du bon Dieu sur la femme chrétienne. La femme chrétienne, en tenant sa maison dans un ordre, dans proprement, dans un climat, il y a un climat à entretenir dans la maison, simple, chaleureux, propre, ordonné, chrétien, eh bien, contribue énormément à la formation de l'âme de l'enfant. Parce qu'on est des êtres faits de chair et d'eau, et quand l'enfant vit dans ce milieu-là, ça influe sur son caractère. Vivre dans le désordre, c'est pas bon pour un enfant. Quand la salle à manger, la cuisine sont toujours en désordre, c'est pas bon pour l'enfant. Il faut qu'il y ait un ordre. Il ne faut pas être méticuleux non plus, hein. Ni dans l'ordre, ni dans la propreté. Hein. Il y a un grain de poussière, allez, je vais faire le ménage de toute la maison. Non, on ne s'en sort plus. On s'en sort plus. Mais regardez la femme forte, cette épître qu'on lit parfois à la messe. Hein. Elle tient sa maison. Elle tient sa maison. La paix extérieure favorise la paix intérieure. L'ordre extérieur favorise l'ordre et la paix intérieure. Et normalement, l'ordre intérieur, la paix intérieure doivent se manifester dans l'extérieur. La femme aime l'intérieur de sa maison. Elle ressemble à Jacob. L'homme, c'est plutôt Ésaü. Il est dehors. La femme reste à l'intérieur, s'occupe de l'intérieur. Mais pour s'occuper de l'intérieur, il ne faut pas multiplier les activités extérieures. Si on est à la conférence Saint-Vincent-Paul, au cercle de la tradition, si on s'occupe de l'organisation du pèlerinage, si on s'occupe des malades de l'hôpital, si en plus on s'occupe de 36 familles qui sont en difficulté, si et la maison alors. Alors il ne faut pas tomber dans un extrême à l'autre, hein, plus que de la maison et pas du tout de l'extérieur, un égoïsme familial, mais il faut qu'il y ait de l'ordre, une bonne cuisine pour le mari, pas que des surgelés. Enfin bon, l'abbé Troidec a dû vous parler un peu de ça. Non ? Il faut veiller aux livres et aux journaux qui sont dans la maison. On veille pas suffisamment à ça, l'index, etc. Bon, alors, on peut pas suivre l'index exactement, d'abord parce que l'index, il n'y en a plus. Bon, j'ai envie de dire, même formellement, il n'y a plus l'organisme, mais il n'y a plus de catalogue de l'index, on ne sait plus qu'est-ce qui était l'index.
Mais il faut veiller. On laisse trop souvent les livres et les journaux à la disposition des enfants. Ah, j'ai acheté le Figaro Magazine, qui est un journal d'extrême gauche, et je le laisse là parce qu'il y a un article intéressant sur le dernier pèlerinage de la tradition. Bon, alors on laisse ça sur la table, l'enfant regarde ça et puis regarde des images qui ne sont pas propres. Oh, c'est qu'un catalogue de la redoute. Catalogue de la redoute. Les livres, les journaux, il faut veiller à ça. Qu'il y ait quelques revues, quelques journaux qui ne sont pas parfaitement catholiques, traditionnels, pour des raisons diverses, parce qu'il faut s'informer de telles choses importantes, etc. D'accord ? Mais ne les laissez pas à la disposition de tout le monde. D'abord, en petite quantité, parce qu'à chaque fois, c'est l'argent qu'on donne à ces revues. Et puis, en plus, parce que tout doucement, si c'est en grande quantité, on finit par avoir l'esprit de ce qu'on lit. En petite quantité, et puis ne pas les laisser à la disposition des enfants, sauf avec prudence. Bon, il y a toujours le jugement prudent qui doit intervenir, mais il faut faire attention. On est trop souvent insouciant là-dessus. Le dévouement de la femme aussi, à maîtresse de maison. Elle doit être hospitalière, bien sûr. Hospitalière. Dans sa maison. Saint Jean-Chrysostome insiste beaucoup sur s'occuper des pauvres. Elle doit se détendre aussi. La femme doit apprendre à se détendre. Hein, il y a des loisirs. On a tous besoin de loisirs. Hein. L'arc, quand vous le tendez, comme dit Saint Jean, quand vous le tendez trop fort, il craque. La femme doit se détendre. Alors elle doit trouver des détentes qui sont proportionnées. Alors pour certains, ce sera des lectures. Pour d'autres, ce sera des visites à des amis. Pour d'autres, ce sera un musée. Ça sera marcher dans la campagne. Ce sera que sais-je. Mais il faut que les loisirs soient chrétiens et non pas mondains. Il y a des pièces de théâtre qui sont mondaines. Beaucoup de films au cinéma sont mondains. Certaines soirées, certains repas sont mondains. Tous sont mondains. On s'y occupe beaucoup, beaucoup de la réputation des autres, en général pas en la soignant beaucoup, mais ça ne profite pas. On ressort avec des futilités dans l'âme, ça n'a rien apporté. Alors, il y a des loisirs, il faut savoir profiter de ces choses-là, mais bien. Donc, il y a des loisirs chrétiens. En gros, il y a des loisirs qui sont carrément défendus, bien sûr, pas besoin de faire de dessin, parce qu'ils sont mondains et non chrétiens. Et il y a des loisirs auxquels vont les gens du monde et qui sont permis aux chrétiens, parce qu'ils sont de soi inoffensifs. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire voir si dans telle circonstance je peux aller à telle chose. Est-ce que je vais à tel mariage, est-ce que je vais rester ensuite à la partie de danse moderne qu'il y a? Non. Non. Je ne vais pas. Tant pis si ils ne sont pas contents. Et oui, il faut être fort aussi. Le respect humain. La force est l'une des vertus qui manque le plus aujourd'hui. Le modèle de la femme chrétienne, c'est la Sainte Vierge. Alors évidemment, la Sainte Vierge n'a pas été confrontée à tout un tas des problèmes auxquels nous nous sommes confrontés, et puis les évangiles ne nous donnent pas plus. Il s'agit de l'imiter dans ses vertus, mais surtout de la prier. La prier pour lui demander, dans les multiples occasions de la vie chrétienne, comment faire. Comment faire pour être une femme chrétienne, tout simplement. Nous ne nous rendrons pas à la chapelle.